Here we go with the main event of the evening. Let's get ready to rumble.
Ask, what gauche, what? Sur les ondes pour mon bla bla bla. On y croit, naturopathie. Lymphe de Rosemont, Arturo Garci. On va jouer, carte sur table. J'en pense quoi du combat de Jean-Pascal? On va passer pro, boxe et podcast. Laurent Sico parler, bienvenue sur le podcast.
And the new.
En direct de mes locaux, bientôt chauffés de Rosemont à Montréal, parce qu'on va se dire la vérité, il commence à faire frette sur un moyen temps. Puis l'année passée, si ma mémoire est bonne, l'automne a duré 72 heures. Puis on s'est tout de suite tapé un hiver terrible. Le podcast numéro 35, toujours associé à un joueur du Canadien au podcast, pour moi c'est important. Charlie Lindgren, Dustin Tokarski et le premier numéro de Thomas Plekanec avant qu'il change du 35 au 14. C'était votre leçon d'histoire. Ben oui, je suis une journée en retard. Je vais vous le dire, je vais encore me plaindre comme à chaque semaine. Si j'ai beaucoup trop travaillé. Puis j'ai travaillé dimanche, je voulais m'en aller de bonne heure, finalement c'était du temps double, je suis rentré chez nous complètement débâti, puis j'ai pris ma douche, puis j'ai rien fait, mais je suis content, parce que il est arrivé plein de choses le lendemain, c'est-à-dire lundi. Puis mon ami Vincent Tremblay m'a fait découvrir, puis il m'a montré comment fonctionne une application pour faire des podcasts, parce que avant je faisais ça un peu tout croche, le son partait de tous les bords. Et là, je vous ai mis des extraits. Et j'aimerais remercier mes amis du 91.9, parce que dans le fond, c'est tous des extraits du 91.9. Il y a eu une conférence de presse. Maintenant, c'est le fun. Avant, je ne pouvais jamais y aller parce que je travaillais. Puis maintenant, ça se passe sur Zoom. Et la gentille Claire Couturier nous envoie le MP3. Fait que j'ai découpé les meilleurs moments. Et là, je vais vous le dire, mais je vais vous le dire juste une fois. J'ai parlé par-dessus les questions des journalistes. Puis j'ai fait un Martin McGuire de moi-même. J'ai posé des questions avec la réponse dedans, mais j'avais déjà écouté la réponse. Fait que pour vous à la maison, le contenu des réponses est très intéressant. Mais les questions, vous allez dire, mais voyons, là, ça n'a pas de bon sens. Les questions, c'est moi qui les pose. Fait que vous allez tout comprendre quand vous allez l'écouter. Moi, je trouve ça drôle, mais ça fait partie des choses un peu étranges que je suis probablement le seul qui trouve ça drôle. T'sais. Puis, je vous fais vraiment un podcast que moi, je trouve drôle, mais c'est un peu trop dans ma tête. Ça, c'est depuis 3 ans, là, je prends des antidépresseurs parce que je faisais des crises de panique à répétition, puis des crises d'anxiété. Je sais toujours pas pourquoi. J'ai refusé d'aller consulter. Puis j'étais allé, mais pas longtemps. Fait que je sais pas d'où part la panique, mais je laisse les médicaments l'enlever. Fait que les médicaments coupent complètement mon anxiété puis ma panique. Mais je sais toujours pas pourquoi il faut que je prenne des médicaments. Mais ça me fait une drôle de tête. T'sais. Ma tête est un peu bizarre, puis je trouve ça super drôle de refaire les questions. Puis là, je me tapais ses cuisses. Mais dans le fond, est-ce que vous allez trouver ça drôle? On le sait toujours pas. Cette semaine, gros podcast, parce que j'ai arrêté de parler de mes histoires un peu drabes. Déconfinement de la boxe professionnelle au Québec. Je vais vous en parler. On va refaire un peu la nomenclature des événements. Vous allez voir, c'est à n'y rien comprendre. Mais tant mieux. Je vais vous parler, ce matin, j'écoutais le 91.9 et Camille et Stéphane ont annoncé un tournoi chez les 140 livres. J'ai fait un statut sur Boxing Town un peu trop vite parce que j'étais caché à l'ouvrage, pas droit à mon téléphone. Mais j'ai réécouté l'entrevue et là, j'ai bien compris le tournoi. Fait qu'on va pouvoir s'en parler. Résultat de tous les combats, deux, trois petites rumeurs. Puis on remballe, ce sera pas le... podcast avec le plus de contenu, mais vous allez voir, on va bien rigoler. Bon, en premier lieu, là, je vais vous parler du déconfinement de la boxe. On a eu une très bonne nouvelle cette semaine. On a eu toute une nouvelle cette semaine. Le déconfinement de la boxe, on s'y attendait parce que quand Camille et Stéphane est allé rencontrer les gens de la santé publique, il est accompagné de son avocat, Anthony Roodman. Un jour, je vais vous parler de ce Anthony Roodman-là. Il a un rôle important à jouer chez Eye of the Tiger, puis dans le fond, on le connaît pas. Il y avait aussi à la table Marie-Pierre Houle et Maître Philippe Farley, qui, en plus d'être un avocat émérite, est aussi un de mes meilleurs amis. Et sur sa carte d'affaires, il marque vraiment « meilleur ami de Laurent » et en dessous, en plus petit, « avocat ». Fait que vous voyez vraiment comment il voit ça dans sa tête, l'importance de mon amitié. Donc, revenons à nos choses sérieuses. La santé publique a alerté Camille et Stéphane pour lui dire « dans les prochains jours, il y aura une annonce où... on va déconfiner la boxe professionnelle. » Là, je veux vous dire, rappelez-vous qu'au début, il y a environ 3 mois, Camille et Stéphane a déposé une proposition pour déconfiner la boxe professionnelle. Pourquoi je ris? Parce qu'il a envoyé ça, tu sais, aux bonnes personnes. Puis finalement, le gouvernement, lui, s'est trompé. Tu sais, il y a quelqu'un au gouvernement qui a dit « Oh, voici de la boxe, je vais envoyer ça à sécurité publique au lieu de l'envoyer à santé publique. » Là, je me trompe peut-être dans mes ministères. Puis la personne au gouvernement a pris la demande de Camille, pas fait comme « Ah, je vais donner ça au sous-ministre. » Là, le sous-ministre n'avait pas de temps, il était confiné ou il s'occupait de ses enfants. Sacré ça sur le bout d'une table. 6 semaines après, ils ont dit « Ben, désolé, si on n'a pas mis, on n'a pas donné le dossier au bon ministère. » Ils ont renvoyé le dossier à l'autre ministère qui a pris 3 semaines, 1 mois pour lire tout ça. Et là, ils ont convoqué Camille, Maître Farley et Marie-Pierre Houle. Ils ont eu une première rencontre. Là, ils sont revenus à la charge. Ils ont dit à Camille, « Ben, t'étais... » Je présume. Là. Ils ont dit à Camille, « Reviens. » Là, la semaine d'après, Camille est retournée à Québec. Ils ont posé quelques questions. Et là, vous allez voir, c'est là que tout devient épatant. Ils ont dit à Camille et Stéphane, « Ah, OK, ben, tu peux faire de la boxe à partir du 25 septembre. » Mais Camille, là, c'est là que je veux vous ramener, là. Il a demandé 8 clos. Il était prêt à aller quasiment à Fermont d'une grotte pour faire le gala. Il était prêt à faire 10 tests à chacun de ses boxeurs et s'isoler 1 mois d'une chambre d'hôtel et aller doucher au Purel. Puis notre ami Horacio est arrivé puis il a dit ben, tu peux mettre 250 personnes dans la foule. Puis finalement, tout ce que je te demande, c'est des tests. Puis 10 jours après le combat, qu'il reste confiné. Ça, c'est un peu plate, là. Tu gagnes. Tu sais, si t'as gagné ton combat, t'es confiné 10 jours, c'est plate. Tu peux pas aller festoyer. Puis si t'as perdu, ben c'est le fun. Y a pas personne qui t'achale. Fait que là, ben, la santé publique a accepté de déconfiner la boxe. Il va avoir une conférence de presse mardi. Pendant qu'on est sur le dossier, Camille et Stéphane n'ont pas chômé. Hein. Dès le lendemain, il était en entrevue. Puis il disait, 26 septembre, je suis prêt. Il y a 2 salles à Québec. Une salle qui a déjà utilisé en sol de Pointe-Claire. Ça, c'est le Holiday Inn. Il a déjà fait des galas au Holiday Inn. Là, il a dit, OK, mais peut-être que ce sera au Holiday Inn. Sinon, il y a une salle. Et là, moi, je suis allé voir les photos. Là. C'est magnifique. Le Capitole à Québec pourrait recevoir la boxe. Mais ça, je vous dis... Si c'est au Capitole, j'essaie d'être un de ceux qui peut aller voir ça. C'est certain. C'est un monument historique sur la place d'Youville. Classé monument historique en 84, lieu historique national du Canada en 86. C'est vraiment, j'ai vu les photos, là, c'est à jeter par terre. Donc, si le gala de boxe est là-bas, vous allez capoter. Et j'imagine que même pour... les gens qui écoutent sur Punching Grace, ça va être beau. Si c'est au Holiday Inn de Pointe-Claire, ben c'est plus pratique, mais c'est pas le même cachet. Et là, Camille m'a vraiment assommé. Il a fait, OK, 26 septembre, Puis, je suis tellement content que ça recommence. David Lemieux, Arslanbek Makhmoudov, Simon Kane, Lexun Mathieu. Un des trois qui était supposé aller en France, un adversaire canadien. Moi, je pense que c'est Courchen, là, puis on en parlera plus tard. Puis, ben, imaginez, là, c'est quasiment comme avoir quatre finales. T'sais. Lemieux, Kane, Makhmoudov, puis Lexun. Là, on extrapole. Lemieux contre Francis Ntetsu. Makhmoudov contre je ne sais qui. Mais je vous donne juste l'idée que j'ai dans la tête. Je pense que c'est Makhmoudov qui va finir contre France Real. Puis ils vont mettre Kane contre Carmen une troisième fois. Ça, c'est une idée que j'ai dans la tête. Là. J'ai aucun scoop. Je vous lance ça comme ça. Puis Lexun Mathieu contre Ono Albert. Ono Lulose. Fait que, en tout cas, c'est déjà les gros chars. Puis Camille a fait une autre annonce, mais ça, je vais vous réserver un segment seulement pour ça. Donc, on passe tout de suite à la grande entrevue que j'ai faite avec j'ai de la misère à prononcer mes mots, ça va vraiment mal. On passe à la grande entrevue que j'ai enregistrée avec Michael Zouski et Yvon Michel dans les prochaines minutes.
Moi, en autant que Laurent Poulin sera là, on est correct.
Ouais. Moi, je l'ai pas encore croisé une soirée de gala où j'étais, là. Laurent. Là.
Laurent?
Il se déplace pas beaucoup, Laurent.
Non, il vient.
Des fois, oui.
C'est un homme discret.
Ah, peut-être.
Surtout que physiquement, il est très discret.
Oui,
aussi.
Absolument. Ça dépend de l'année dont tu parles.
Laurent Poulin du podcast Laurent s'écoute parler. Salut Yvon, je me trompe ou c'est la première fois que Michael Zouski va être en finale sur Top Rank, en plus contre, et j'ai dit juste, Kavialoska, qui est un double olympien, si ma mémoire est bonne.
C'est donc la première fois en carrière que Michael Zouski va être sur un combat principal, une finale sur ESPN, contre un adversaire de grande qualité, un adversaire en Egidijus Kavalioskas, qui était olympien à deux reprises, en 2008, en 2012, qui a connu une carrière amateur extrêmement impressionnante, qui est devenu l'aspirant obligatoire à Terence Crawford a eu son combat en décembre dernier. Un combat auquel on a assisté.
Merci à Claire Couturier de me permettre une deuxième question. Je vois qu'il y a beaucoup de monde dans la file d'attente. Yvon, quand Michael Zouski a quitté Top Rank et est revenu au Québec, vous avez eu une entente, toi et lui, où tu allais l'aider à accomplir ses rêves en boxe professionnelle. Est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment le combat que Michael Zouski te demandait depuis son retour au Québec?
Michael, donc, depuis qu'il est revenu avec nous, en fait, qu'il est revenu au Québec, a toujours demandé ce genre de combat. Un combat qui pourrait lui permettre, lui aussi, de s'établir parmi l'élite de la division des 147 livres. Et finalement, on l'a obtenu.
Yvon, c'est un cliché, mais c'est clairement le combat le plus important de la carrière de Michael Zouski, classé dans trois associations. Une victoire contre Kavialoska qui revient d'une bonne performance contre Terence Crawford, puis on est parti pour un championnat du monde.
Le combat le plus important, le plus déterminant de la carrière de Michael, une victoire va le propulser certainement dans le top 3-4 de la division et son nom va revenir à la surface régulièrement pour un possible combat de championnat du monde.
Yvon, c'est un cliché, mais c'est clairement le combat le plus important de la carrière de Michael Zouski, classé dans trois associations. Une victoire contre Kavialoska qui revient d'une bonne performance contre Terence Crawford, puis on est parti pour un championnat du monde.
Le combat le plus important, le plus déterminant de la carrière de Michael, une victoire va le propulser certainement dans le top 3-4 de la division et son nom va revenir à la surface régulièrement pour un possible combat de championnat du monde.
C'est C'est un gars que tu connais bien, Kavialoska. Moi, je suis ta carrière depuis toujours. Il a fait plusieurs de tes sous-cartes quand tu étais sur Top Rank. Puis, je me trompe où tu es allé avec Yvon Michel le voir de tes propres yeux à New York?
Son temps de réaction, je l'ai vu en action, comme Yvon le mentionnait, on est allé le voir à Las Vegas, à New York contre Crawford. Puis il a boxé sur une ou deux de mes sous-cartes au moment où lui, il commençait avec Top Rank. On a le même âge, je pense qu'il est peut-être un petit peu plus vieux, mais j'avais plus de combats que lui. Mais sur quelques combats, on boxait sur les mêmes cartes, donc je le connais très bien. Je sais que c'est un gars qui a beaucoup de talent. Il est très vite, il est très vif. Il est surtout très fort, donc sa puissance, c'est vraiment un de ses atouts. Mais on a vu quelque chose dans son style, quelques petites affaires où qu'on peut vraiment là, exploiter et le mettre dans des zones où il sera tout simplement pas confortable de boxer. Puis, tu sais, il revient d'une nulle et d'une défaite, alors que moi, je reviens sur une série de victoires. Donc, j'ai le vent dans les voiles, la confiance est dans le plafond, puis on s'en va là pour faire une grosse performance.
Très grosse entrevue de ma part. Je sais pas si vous avez aimé ça. Je vous répète que il y a un petit peu de magie avec l'enregistrement. Là. Faites-vous-en pas. C'est pas les intervenants qui répètent mes questions. C'est moi qui s'est payé un trip à la Martin McGuire. Les combats, il y a eu des combats en fin de semaine. Je veux vous en parler parce que c'était quand même une fin de semaine correcte où je me suis assez... j'ai écouté des combats l'après-midi, puis sans dire que je me suis amusé, là, j'ai vu des bons combats, puis j'ai pas détesté ce que j'ai vu. Iris Lendi Lara a battu Greg Vandetti 116-112. Ça s'en vient pénible un peu pour Lara qui affronte des boxeurs beaucoup trop faciles pour lui. Vandetti s'était fait geler au deuxième contre Michael Soro qui cogne pas du tout en 2018. Puis là, Lara fait 12 rondes avec. Il y a quelque chose qui ne marche pas que Lara. Pour moi, il ne frappe pas assez fort. Tu sais. C'est la seule affaire que je vois. Donc, victoire de Iris Lendi Lara. Sur la même carte, il y avait Alfred Angulo qui est classé un peu partout, qui affrontait un adversaire de dernière minute en Vladimir Hernandez. 10 victoires, 4 défaites. Et tenez-vous bien, Hernandez a lancé plus de 1000 coups de poing. Il a gagné 8 rondes sur 10 contre Alfred Angulo. L'heure de la retraite a sonné pour notre ami le chien Alfred Angulo, qui, on se rappelle, avait battu Joachim Alcine au premier round dans la période un peu plus triste de Joachim Alcine. Alfred Angulo qui a déjà affronté James Kirkland, allez écouter le premier round. Quand vous allez vous en remettre, venez m'en parler. Daniel Dynamite Dubois, triple D, a battu Ricardo Schneider, un gars qui boxait chez les 200 livres, qui a monté à 2,14 avec des cailloux dans ses poches pour affronter Daniel Dubois. Ça s'en vient gênant, là, Dubois puis Joseph Joyce, qui nauque des tout croches. À un moment donné, affrontez-vous. A gagné à 20 secondes du deuxième round après avoir envoyé à 3 reprises. Ricardo Schneider au tapis. Ça va faire, on n'en veut plus de combat de même pour les deux. Vendredi soir, Jack Kulke, je pense qu'il a été champion du monde d'une version louche de la WBO, avait fait une performance honnête contre Demetrius Boubou. Andrade a... Excusez-moi, je suis en train de m'étouffer pendant que je parle. Ça fait pas de la ben bonne radio. Mais Kulke était supposé perdre contre un adversaire africain de 9-0, un méga, méga prospect Abbas Baraou, un type, je vous dis que c'est un Africain, mais il est né puis il a grandi en Allemagne. En tout cas, désolé. Et là, Baraou, on essaye de le propulser gros comme le bras, tu sais, puis on l'envoie rapidement contre Kulke. Mais tenez-vous bien, là, après vos affaires, Kulke a battu Baraou par une bonne marge, qui a fini par être une marge serrée à l'écran. Mais pas à l'écran, mais par les juges. 115-113, 115-114 et 113-116 pour Baraou. Imaginez à quel point c'était serré sur les cartes. Moins serré en vrai. Attendez-vous à un combat revanche. L'ancien aspirant mondial Vincent Fegenbutz faisait aussi partie du gala. A subi a subi une défaite contre Caleb Plant en février, où il était vraiment pas de calibre. Lui, on l'a sorti de l'Allemagne, ça n'a rien donné. Là, il a gagné quand même difficilement contre un dénommé Jama Saidi. Attendez-vous à revoir un jour Figenboots se faire débattir contre quelqu'un qui va nous trouver à quelque part. Joe Hughes, je ne connaissais pas. Il a une fiche de 17-5. Je vois ça, un beau combat domestique qu'on appelle. Joe Hughes affrontait Sam Maxwell. Puis là, je vois, moi, quand je vois un combat, ce que je fais, c'est que je vais tout de suite voir à mise au jeu ou à Bet365 si ça vaut la peine de l'écouter. Je ne vais pas voir un gars. Je ne veux pas avoir de combat complètement inégal, j'ai d'autres choses à faire. C'est un combat qui était très serré par les parieurs. Fait que tout de suite, je m'installe, j'écoute ça. Je vois que Joe Hughes a 5 défaites, mais il a perdu contre l'élite. Combat serré contre Jack Catterall, on va parler plus tard. Combat serré contre Anthony No Digit Yegit, qui était un de mes préférés avant qu'il se fasse transpercer en morceaux par Ivan Baranchik. Défaite serrée contre Robbie Davis Jr. Défaite, là, il affronte Sam Maxwell. Puis Sam Maxwell, il 13-0, là, sa fiche est ridicule. Il a battu des gars avec 4 victoires, 137 défaites, 1 victoire, 41 défaites. Là, je me dis, Sam Maxwell, ça n'a pas de bon sens. Il n'est pas supposé gagner. Même s'il est 13-0, il ne gagnera pas. Tu sais, sa fiche est bien trop gonflée. Tu sais, 407. 4 victoires, 107 défaites. Dénommé Ibrar Riaz. À son avant-dernier combat, il a battu Oscar Amador, 10-20. En 2018, il a affronté Jamie Quinn, 4-74. Je me dis, ça n'a aucun bon sens. Finalement, il était super bon. Il avait les mains vives. Sa défensive laissait un peu à désirer, mais Hughes attaquait pas vraiment. Fait que belle victoire de Sam Maxwell. Attendez-vous à le revoir dans les galas qu'on écoute l'après-midi en Angleterre. C'est sur ce même gala que Daniel Dubois a démoli son adversaire. Et il y avait un dénommé Wilkie Hutchinson, lui, à mettre sur vos listes. C'est un 168, beaucoup trop fort pour la Ligue. C'était un combat de 10 rondes, il affrontait un gars de 2-2. Il l'a passé à 1 minute 20. C'est quand même assez chic, hein, merci. Et là, je voulais faire un spécial, mais dans le fond, je vais vous faire un spécial. C'est juste que je ne mettrai pas d'intermission entre les deux. Spécial 140 livres. C'est en gros, ça devrait même être le titre de l'émission. Spécial 140 livres. Toujours répété, ça met plus d'ampleur sur ce que j'ai à vous raconter. Il y a eu des gros combats à 140 livres en fin de semaine. Puis, il y a eu une grosse annonce de Eye of the Tiger ce matin. Puis, je vais tout vous mettre ça dans le même melting pot. Mais vous allez voir ce que je pense réellement dans ma tête. Puis, avant de commencer, je veux juste faire une mise en garde. Je trouve ça difficile des fois de couvrir la boxe parce que j'ai beaucoup trop d'amis chez les boxeurs. Puis là, ça fait 6 mois que je les ai pas vus avec le confinement. Puis je pense pas qu'ils m'écoutent toute la gang. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais vous dire le fin fond de ma pensée, quitte à perdre des amis. Mais ce qu'on va faire, c'est que vous m'écoutez en direct. Ben en direct sur le podcast, c'est parfait. Dites à tous vos amis d'écouter le podcast. Parlez-en à vos familles. Mais vous n'êtes pas obligé d'alerter les boxeurs que je vais mettre sur la sellette là. T'sais. Faites pas exprès pour appeler un tel puis dire hey, Poulain a dit ça. Puis je me ramasse avec du trouble. Okay? Fait que ça va être comme un secret entre moi et tous vous autres. Il y a des affaires. Il y a ma vraie opinion qui s'en vient. Puis en tout cas, je vais vivre avec. José Carlos Ramirez, 25 victoires, 0 défaites. Champion WBC. World, champion WBO, affrontait Victor Postol. Victor Postol, là, c'est un animal, OK? C'est un gars de 5 pieds 11 qui arrive à faire 140 livres, qui est entraîné par le même entraîneur que Adonis Stevenson, Sugar Hill. À moins que je me trompe, là, mais il me semble que c'est Sugar Hill. Il y a Vadim Kornilov, l'homme le plus puissant de la boxe professionnelle. 5 pieds 11 chez les 140 livres. il a de la puissance derrière ses coups. Ce gars-là fait peur. Il avait débattu tout le monde. DeMarcus Chop Chop Corley. Henry Hank Lundy. Sezouk Edin, qu'on a connu contre Jojo Dan. Il a massacré Luka Matisse. Pas tout le monde qui peut faire ça. Quand il est arrivé contre Terence Crawford, rien. Il n'y a rien qui a passé. Crawford, trop fort pour la Ligue. Il est revenu. Il a fait un bon combat contre Josh Taylor, mais s'est fait aussi déclasser contre Taylor. C'est Taylor, numéro 1 chez les 140. Crawford, numéro 1 chez les 147 livres. On peut vivre avec ça. Il a battu le Français Mohamed Minoumoun, qu'on voyait souvent au Québec, assez facilement. C'est un Français qui vient souvent s'entraîner avec Yves Ulysse. Et là, il a perdu 115-113, 116-112 et 114-114 dans ce qui semble être une controverse. Moi, je ne veux pas m'en mêler. Prenez vos crayons, écoutez le combat, puis faites ce que vous voulez. José Ramirez n'a pas épaté, n'a pas montré qu'il était un véritable danger pour Josh Taylor. Victor Postol semble avoir gagné et avec cette défaite-là serrée, moi j'établis Postol comme le troisième meilleur boxeur chez les 140 livres. Où ça devient intéressant, là. J'ai pris des notes pour vous autres. J'ai ouvert mon box-rec. Josh Taylor, numéro 1. Régis Progrès, numéro 2. Mais on ne sait pas s'il monte chez les 147 livres. José Ramirez. Moi, j'ai Postol tout de suite après. Il y a José Zepeda qui va affronter Ivan Baranchik, 4 contre 5. Ivan Baranchik, si vous ne le connaissez pas, allez voir ça. C'est un animal. Il est vraiment dangereux. Il est toujours à l'attaque. Il frappe fort. Robert Easter Jr., le grand qui mesure quasiment 6 pieds 8. Mario Barrios, un type dangereux aussi. Terry Flanagan, un expérimenté. José Sniper Pedraza. Arnold Barboza, qu'on a vu contre Tony Lewis Jr., gagner tous les rounds. Rappelez-vous de ça. Je m'en viens, là. Randy Barthélémy, Jack Catterall, qui est aspirant numéro 1 maintenant à José Ramirez, voir un appel d'offres cette semaine ou la semaine prochaine. Eux autres, il y avait la WBO, je pense, avait bien averti Ramirez. Fais ce que tu veux, on va quand même lancer l'appel d'offres. Beaucoup d'autres bons boxeurs. Le Saut, Jagon, Ergachev, c'est le plus dangereux de la gang. Moi, il me fait peur. Okay? Puis là, ce que je veux vous dire, c'est que je viens de vous nommer plein de noms. La catégorie des 140 livres est devenue vraiment forte. Quand Terence Crawford est parti, au lieu d'affaiblir la catégorie, on dirait que ça a permis à d'autres boxeurs de se lancer puis de se faire connaître. Puis dans le fond, la catégorie des 140 livres est ultra intéressante aujourd'hui malgré le départ de Mickey Garcia puis Terence Crawford. Donc, où je veux en venir, là, c'est que aucun, et là ça va être dur, là, aucun boxeur québécois n'est du calibre du top 20 des 140 livres. Tant mieux s'ils me font mentir, mais pour le moment, j'ai rien vu dans leur boxe qui fait qu'ils pourraient battre un Arnold Barboza ou un Ivan Baranchik ou un Sojagan Ergachev. T'sais, je vous dis pas qu'il n'y a pas dans le top 20 des imposteurs là, comme Argenis Mendez qu'on a connu plus bas. Ou Raimondo Beltrán. Probablement que ce serait des combats difficiles, mais que certains boxeurs au Québec auraient des chances de gagner. Mais craquer le top 10, zéro pour moi, aucunement. Puis je ne me ferai pas d'amis. De toute façon, des amis, j'en ai plein. J'ai pas besoin de nouveaux amis. Je vois personne dans le craquer le top 10. Okay? À partir du moment qu'on en est là, on va y aller cas par cas, je vais même vous le dire. Yves Ulysse, j'étais là dans un concessionnaire auto à Boisbriand. Il s'est fait assommer. Partout sur le reste de la planète, c'était arrêté le combat. Ils ont laissé la chance de revenir. Puis bravo à Yves. Il s'est levé puis il a claqué son adversaire. Au quatrième round, il a comme explosé. Puis il l'a battu facilement. Mais je ne suis pas pour vous dire que ça avait l'air de. Il avait l'air d'un gars qui aurait dû se faire arrêter au troisième. Mais tant mieux. Grand bien lui fasse, c'était contre du Francisco Javier Pérez, on est en septembre 2019. Il affronte Ricky Sismondo. J'ai rien contre Ricky Sismondo, c'est juste que nous au Québec, Ricky Sismondo est en train de nettoyer puis d'envoyer les gens à la retraite, OK? Je parle de dirigeant puis Ghislain Madouma. La vérité, c'est quand que Sismondo est arrivé contre Batir Akhmedov, c'était son troisième combat, il a perdu par 13 points selon un juge, 12 points selon un autre. Il est allé deux fois au tapis. Il s'est fait battre par un gars d'1-0, un Chinois. Maxime Dadachev, Dieu et son âme, l'a arrêté au quatrième round. Arnold Barboza, qu'on vient de voir contre Tony Lewis, l'a fait abandonner au quatrième round. Il est resté dans son coin. Je dis, si tu fais partie de l'extrême élite, tu te débarrasses de Ricky Sismondo par 13 points ou mais tu l'arrêtes. T'sais, c'est plate d'être obligé de vous dire ça, mais c'est la vérité. Mais c'est ma vérité, en tout cas. Ulysse est classé 42e sur BoxRec, mais premier. Mathieu Germain. J'adore Mathieu Germain. Je fais partie du G-Time Click. Mais t'sais, ça a été compliqué. Match nul contre Claguette. Puis il s'est fait arrêter au 5e. Il a mangé une claque contre Uriel Pérez. Quand Pérez, le combat suivant, est arrivé contre Maurice Hooker, il s'est fait geler au premier round. Il dort encore aujourd'hui. Donc, pour moi, et j'adore Mathieu Germain, il ne fait pas partie d'un top 20. Quand je vous ai nommé tantôt Victor Postol, un gars de 5 pieds 11, je vous ai nommé Julius Idongo, un gars de 6 pieds 1. On a vu Terence Crawford aller à 140 livres. Pour moi, il n'appartient pas à ça. Steve Claguette, il s'améliore, mais il ne fait pas partie de l'élite. Et David Theroux, ben la même chose. T'sais, vous avez vu Theroux perdre une fois contre un... Je pense que c'était contre un gars... Il avait amené un gars de 20-0 à Sorel. Je ne sais pas à quoi ils ont pensé. Il avait affronté juste des fiches tout croche. Puis le gars, il a surpris Theroux. Il s'appelait... Je lis ici. Jésus Antonio Pérez Campos. Et il a perdu contre José Emilio Pereira qui ont amené 25 fois au Québec. Tout le monde l'a battu sauf Theroux. Puis il s'était fait surprendre à Sorel contre Ignacio Mendoza et avait brisé. Donc Theroux, je l'adore. C'est un gars gentil. Mais une grosse claque au corps. Puis je le vois comme un gars potentiellement dangereux pour la division québécoise parce que Stéphane Larouche est avec lui depuis un bout. Là. Larouche, il fait souvent des miracles. Donc, pourquoi je vous ai nommé ces 440 livres-là? Parce que pour moi, il n'y a personne qui peut craquer le top 20. Okay? Mais Camille et Stéphane est arrivé avec des dollars puis une bonne idée. Il a dit, je vais mettre les 4 ensemble dans un tournoi. Mais là, j'ai mal écouté l'entrevue. Okay? La manière qu'il veut faire ça, alors, je vous fais passer l'extrait tout de suite.
On va faire en octobre un petit tournoi entre, on va l'appeler le Carré d'As, entre oui. 140 livres. Alors, je vous affirme et confirme que Yves Ulysse, Mathieu Germain, Steve Claguette et David Theroux vont être du même tournoi. Ils vont s'affronter chacun et à la fin, il va y avoir une élimination, une demi-finale puis une finale et le gagnant va avoir beaucoup, beaucoup de titres en jeu, probablement un combat éliminatoire pour un combat de championnat du monde.
Bon, vous l'avez entendu, il va prendre les 4, un peu comme dans le temps du Super 6. Puis là, si je comprends bien, tout le monde va s'affronter. Exemple, Theroux, Germain, Ulysse, Claguette, 3. Un gagne, deux paires. J'imagine que les deux qui gagnent deviennent des têtes de série. Les deux qui ont perdu échangent. Je vais vous donner un exemple. Ulysse bat Claguette, Giroux bat Germain. Mais j'imagine que Germain affronte Claguette, Ulysse affronte Theroux. Éventuellement, il y a deux autres gagnants, il y a des classements avec des points. Tout ça qui culmine à une finale après que tout le monde ait fait 3 combats. Et un peu comme dans le temps, André Ward et Carl Froch étaient ceux qui avaient le plus de points après 3 combats. Donc, ils se sont affrontés et là, André Ward a gagné. Ce que Camille veut faire, c'est acheter beaucoup de sanctions nord-américaines, exemple NABO, NABF, et à travers le tournoi, faire classer ces gars. Tu sais, je vais vous donner l'exemple. Ulysse bat Claguette, tombe classé 13e. Il bat, admettons, Theroux, ben, il monte 9e. Puis après ça, il bat Germain en finale. Je dis ça comme ça, c'est pas une opinion. Mais Ulysse se ramasse avec un excellent classement. Il a 3 victoires. Il est classé, mettons, 4e. Puis Camille pense qu'il va être capable de le placer pour un aspirant numéro 1. Je ne sais pas s'il y a eu des promesses des associations. Ça, on ne le sait pas. Mais c'est un peu l'idée. Ce que ça donne. Puis je suis déjà arrivé avec cette idée-là. Bradley, Juan Manuel Marquez puis Manny Pacquiao appartenaient les 3 à Top Rank. Ils ont fait 8 combats avec ça, puis tout le monde était heureux. Là, Théroux, ben c'est le gars qui vient de l'extérieur, mais il signe un contrat. Claguette, Germain, Ulysse appartiennent tous à Eye of the Tiger. Selon moi, c'est tous des boxeurs qui ne peuvent pas craquer le top 10 et espérer devenir champion du monde. Pourquoi pas mettre tout ce monde-là ensemble dans un tournoi, en retirer 12 combats, relancer la boxe au Québec, relancer Punching Grace, faire de grosses rivalités locales, puis triper, puis se battre entre nous autres. T'sais, moi, je suis prêt à aller au coin du métro défendre Germain, puis là, garrocher les tables sur le monde, puis la chicane va prendre. Fait que c'est parfait, ça, Costa. Il adore ça quand on abîme son matériel. Fait que je vois vraiment ce tournoi-là comme une super bonne idée. Point de vue promotion, point de vue faire du bruit au Canada. J'aurais même aimé ça qu'on étire le tournoi puis qu'on parle de Ayaz Hussein, qu'on parle de Batil Jukanbayev, mais il est pris en Russie, qu'on parle de Masloum Akhdani. Pourquoi pas donner Masloum Akhdani dans 2 ans au gagnant? Masloum, il frappe comme un train avec sa main gauche, puis il va avoir besoin de boxer lui aussi. Donc, super bonne idée ce tournoi-là. Éventuellement, juré d'une prédiction. Ce qui semble être la norme, c'est que Ulysse est favori, Claguette est 2e, Germain 3e, Théroux 4e. Mais je vous dis, Théroux, le body punch, puis Stéphane Larouche pas loin. Je suis pas certain qu'il faut vendre sa peau de l'ours tout de suite. Ulysse semble favori, je suis d'accord, mais Claguette, je trouve qu'il s'améliore toujours. Puis G-Time, mais c'est l'ordinateur à la place des oreilles. T'sais. C'est un gars très intelligent dans un ring. Qui, on ne sait pas, t'sais, dans le fond, la vraie question, c'est qui a réussi à améliorer sa boxe puis à s'améliorer comme boxeur pendant le confinement. On va avoir des réponses assez vite avec ce tournoi. Super bonne idée et je suis content. Ça commence en octobre.
Et Makhmouda, tu as réussi à trouver un Canadien qui allait avoir le courage de recevoir les points de Makhmouda?
On a trouvé un. Oui, effectivement.
OK, parfait.
Depuis que j'ai ma nouvelle application pour faire le podcast, je me sens vraiment comme un petit ingénieur de son. Tu sais, je me sens comme si je faisais des gros montages pour la radio. Là. J'ai l'impression que dans 1 an ou 2, je prends ma retraite puis je travaille dans l'industrie du podcast. Tu sais. Je vais ramasser tous les humoristes qui n'ont pas de podcast puis je vais leur faire à croire que je suis capable de tout gérer la production. Mais ça va être mon application à 13,99 puis je vais devenir millionnaire. Ça, c'est toujours une de mes idées. Pourquoi pas devenir millionnaire? Je vais vous parler de dernier petit sujet. Ce sera pas le podcast le plus long, mais pourquoi allonger les choses pour rien? Mikhaïl Zouski. On va l'avoir la semaine prochaine. Là. Dans le fond, je ne l'ai pas vraiment harcelé pour qu'il vienne en onde. J'ai été gentil. Je me suis dit qu'il avait déjà fait beaucoup de médias. On va l'avoir la semaine prochaine si tout va bien. Là. D'ailleurs, j'ai plein d'idées de monde que je voudrais avoir dans les prochaines semaines. Puis finalement, je n'y reçois pas toujours. Mikhaïl Zouski m'a fait rire en conférence de presse quand il a dit « Je le sais que je suis le underdog. Je sais que je suis le côté B. » J'ai lu qu'il y a des gens qui disent que je m'en vais à l'abattoir, mais le 12 septembre prochain, je m'en vais là, flipper les tables, faire le party, puis choquer le monde entier. J'adore l'attitude de Zouski. J'adore le fait que, tu sais, au diable l'argent, puis au diable un peu, sans dire de calculer le risque, mais le meilleur adversaire disponible, c'est Kavialoska. Je veux devenir champion du monde. Amenez-le, je vais mordre dans le mouthpiece, il arrivera ce qui arrivera, puis il a été cohérent avec l'entrevue qu'il avait donnée ici, où il disait, Laurent, c'est pas l'argent qui m'intéresse, c'est d'avoir ma chance de devenir champion du monde, j'irai pour 1 piastre, puis je vais affronter n'importe qui, tant que ça va faire du sens, puis tu vois, ça fait du sens, il y va, Fait que, merveilleux, Michael. On est derrière toi le 12 septembre prochain au Resto Bar Le Coin du métro. Attendez-vous à une émission spéciale sur ce combat-là. Je suis toujours prêt à vous faire des émissions spéciales. On va recevoir les invités de renom. La semaine prochaine, je n'ai pas encore regardé s'il y avait des combats de boxe importants. J'imagine que oui. On va. J'aime ça sortir le podcast le dimanche ou lundi parce que ça permet de réagir sur les combats. Il y a Jamal Herring contre Jonathan Okwando, sinon c'est tranquille. Dans les prochaines semaines, il y a une soirée avec les frères Charlot. On va finir par avoir Dubois contre Joe Joyce. La boxe va revenir au Québec. Errol Spence contre Danny Garcia. On ne sait jamais quand ils vont annoncer Fury contre Joshua. Je pense que c'est Joshua contre Poulet, Fury contre je ne sais qui. Mais on va être prêt. Soyez à l'écoute dans les prochaines semaines. Parlez-en à vos amis. Et à la semaine prochaine.